Chapitre 45. Environ de San Juan Capistrano, vendredi 24 avril 1981. Nathalie émergea des brumes de l'anesthésie pour découvrir Saul en train de lui éponger le front avec douceur. Elle baissa les yeux, vit les sangles qui lui enserraient bras et jambes et se mit à pleurer. « Allons, allons. » Saul se pencha sur elle et lui embrassa les cheveux. « Tout va bien. »« Combien ?» Nathalie s'interrompit pour humecter ses lèvres. Elle lui paraissait lointaine et caoutchouteuse. « Combien de temps ?» « Environ 30 minutes. Notre mélange est peut-être trop fort. » Nathalie secoua la tête. Elle se rappela l'horreur qu'elle avait ressentie en se voyant prête, en se sentant prête à bondir sur Saul. Elle savait qu'elle l'aurait tué de ses mains nues.
« Il fallait faire... vite !»
murmura-t-elle.
« Et Harold ?»
Elle eut toutes les peines du monde à prononcer son nom. Saul hocha la tête. Le premier interrogatoire s'est déroulé à la perfection. Les graphes de l'électroencéphalogramme sont extraordinaires. Il ne devrait pas tarder à refaire surface. C'est pour ça que j'ai... Il indiqua les sangles.
« Je sais, » dit Nathalie.
Elle l'avait aidé à préparer ce lit. Son cœur battait encore à un rythme précipité, conséquence du flot d'adrénaline qui l'avait envahi lorsque Harold avait pris possession d'elle, et de la peur qu'elle avait éprouvée avant d'entrer dans sa cellule. Pénétrer dans cette cellule était la tâche la plus pénible qu'elle se soit jamais imposée. « J'ai l'impression que ça se présente bien, » dit Saul. « Selon l'EEG, il n'a pas tenté une seule fois d'utiliser son pouvoir, sur toi ou sur moi, pendant qu'il était sous l'influence du pain total de sodium. Ça fait environ un quart d'heure qu'il s'en dégage peu à peu. Les mesures se rapprochent de celles que nous avons effectuées ce matin, et il n'a pas tenté d'entrer en contact avec toi. Je suis presque certain qu'il a besoin de voir son sujet, pour pouvoir établir ou renouer le contact avec lui. Ce n'est sans doute pas nécessaire si le sujet a été conditionné au préalable, mais je pense qu'il ne pourra pas rétablir le contact avec toi tant qu'il ne te verra pas. » Nathalie s'efforça de refouler ses larmes. Les sangles ne lui faisaient pas mal, mais elle suscitait en elle une atroce sensation de claustrophobie. Des fils allaient des électrodes plantées dans son crâne au boîtier télémétrique collé à sa taille. Saul s'était intéressé à l'équipement utilisé par ses collègues spécialisés dans l'étude des rêves, et il n'avait eu aucune peine à indiquer à Cohen où il pourrait se le procurer.
« Nous n'en savons rien, » dit-elle.
« Nous en savons beaucoup plus qu'il y a 24 heures. » Saul lui montra deux longues bandes de papier. Le stylet relié à l'ordinateur qui analysait les mesures de l'EEG y avait tracé un profil tourmenté de pics et de vallées.
« Regarde.
Premièrement, une activité apparemment désordonnée au niveau de l'hippocampe. Les ondes alpha émises par Harold atteignent l'intensité maximum, puis disparaissent presque complètement, puis entrent apparemment en phase de mouvement oculaire rapide. 3,2 secondes plus tard, regarde. » Saul lui montra une seconde bande de papier aux pics et aux vallées identiques à ceux de la première.
Synchronisme parfait.
Tu as perdu le contrôle de tes fonctions supérieures et de tes réflexes volontaires. Ton système nerveux autonome est devenu lui-même l'esclave du sien. Tu as mis moins de 4 secondes pour le rejoindre dans cet état de MOR altéré, si je puis dire. Et ici, peut-être la plus intéressante de toutes les anomalies que j'ai observées. Harold émet un rythme θ. Impossible de s'y méprendre. Ici, ton hippocampe réagit par un rythme θ identique, alors que l'EEG est plat au niveau néocortical. Nathalie, cette manifestation du rythme θ a été abondamment observée chez les rats, chez les lapins, etc., durant des activités spécifiques à l'espèce concernée. Des manifestations d'agressivité et de domination, par exemple. Mais jamais chez un primate.
« Tu veux dire que j'ai une cervelle de rat ?»
dit Nathalie. Cette plaisanterie lamentable ne réussit pas à lui ôter son envie de pleurer. Pour une raison indéterminée, Harold, et sans doute les autres, suscite cette exceptionnelle activité θ, à la fois dans son hippocampe et dans celui de ses victimes. poursuivit Saul. Il n'avait pas remarqué la tentative d'humour de Nathalie. Le résultat, c'est que toute activité néocorticale a disparu dans ton cerveau, qui s'est retrouvé dans un état de MOR artificiel. Tu recevais des informations sensorielles sans pouvoir y réagir. Harold, lui, le pouvait. Incroyable. Ceci, il désigna un point du graphe de Nathalie où les courbes s'aplatissaient brusquement. Matérialise le moment précis où les toxines nerveuses contenues dans la fléchette ont commencé à agir. Remarque la différence entre les deux graphes. De toute évidence, la volonté de Harold se transformait en ordre neurochimique dans ton corps. Mais les sensations que tu éprouvais ne lui étaient pratiquement pas transmises. Il ne ressentait rien de tes douleurs, pas plus que s'il les avait rêvées. Ici, 48 secondes plus tard, se place le moment où je lui injectais le mélange d'amatil et de pain total. Saul lui montra le point où les diverses courbes, traduisant l'activité cérébrale, commençaient à s'infléchir.
Mon Dieu ! Si seulement je pouvais l'étudier pendant un mois avec un scanner !
Saul,
Et s'il réussit à rétablir le contact avec moi ? S'il réussit à me contrôler ?
Saul ajusta ses lunettes. Je le saurai tout de suite, même si je n'ai pas les graphes sous les yeux. J'ai reprogrammé l'ordinateur pour qu'il émette un signal d'alarme dès qu'il décèlera une activité erratique dans son hippocampe, une baisse soudaine de l'intensité des ondes alpha émises par ton cerveau ou l'apparition du rythme θ dans le sien.
« Oui, » dit Nathalie en soupirant. « Mais que feras-tu ? »
« Nous entamerons le programme d'études à distance comme prévu. Le transmetteur fourni par Jack nous permet de recevoir des données à 40 km du sujet. »
Mais s'il peut agir à 100 km de distance, à 1000 km de distance ?
Nathalie s'efforça de ne pas hausser le ton. Elle aurait voulu hurler.
Et s'il ne devait plus jamais me lâcher ?
Elle avait l'impression d'être un cobaye volontaire abritant un parasite qui lui rongeait le corps. Saul lui prit la main. 40 km nous suffisent amplement pour l'instant. Dans le pire des cas, je reviendrai ici et je l'endormirai une nouvelle fois. Nous savons qu'il ne peut pas te contrôler quand il est inconscient.
Il ne pourrait plus jamais y arriver s'il était mort, dit Nathalie.
Saul hocha la tête et raffermit son étreinte sur sa main.
Pour l'instant, il est réveillé. Nous allons attendre 45 minutes. Et s'il ne tente pas de s'emparer mentalement de toi, tu pourras te lever.
Personnellement, je ne pense pas qu'il soit capable d'une telle prouesse. Quelle que soit la source des pouvoirs de ces monstres, nos observations préliminaires suggèrent qu'Anthony Harold n'est pas le plus redoutable d'entre eux. Il se dirigea vers l'évier, en ramena un verre d'eau, et soutint la tête de Nathalie pendant qu'elle le buvait.
« Saul, quand tu m'auras délié, tu laisseras quand même l'alarme de l'ordinateur branché et tu garderas le pistolet sur toi, n'est-ce pas ?»«
Oui.
Tant que cette vipère sera dans la maison, elle restera dans sa cage. »
Deuxième interrogatoire d'Anthony Harold. Vendredi 24 avril 1981, 19h23. Le sujet a reçu une injection de pain total de sodium et de méliritine C. Données également disponibles sur bande vidéo, sur EEG, sur polygraphe et sur biosonde. Tony, vous m'entendez ?
Ouais.
Comment vous sentez-vous ?
Bien, un peu drôle.
Quand êtes-vous né, Tony ?
Hein ?
Quand êtes-vous né ?
Ah, le 17 octobre.
De quelle année, Tony ?
1944.
Et quel âge avez-vous aujourd'hui ?
36 ans.
Où avez-vous grandi, Tony ?
À Chicago.
Quand avez-vous compris pour la première fois que vous aviez ce pouvoir, Tony ?
Quel pouvoir ?
Celui de contrôler les actes des autres.
Ah !
Quand, Tony ?
Quand ma tante m'a dit d'aller au lit, je ne voulais pas. Je l'ai forcé à dire que je n'étais pas obligé d'aller me coucher.
Quel âge aviez-vous ?
Je ne sais pas.
Quel âge aviez-vous environ ?
6 ans.
Où étaient vos parents ?
Mon père était mort. Il s'est tué quand j'avais 4 ans.
Où était votre mère ?
Elle ne voulait plus de moi. Elle était fâchée contre moi. Elle m'a laissé chez Tati.
Pourquoi ne voulait-elle plus de vous ?
Elle disait que c'était de ma faute.
Qu'est-ce qui était de votre faute ?
La mort de papa.
Pourquoi pensait-elle ça ?
Parce que papa m'avait battu, il m'avait fait mal. Il m'avait fait mal juste avant de sauter.
De sauter par la fenêtre ?
Ouais. On habitait au 2e étage. Papa est tombé sur la grille avec des pointes.
Votre père vous battait-il souvent, Tony ?
Ouais.
Vous vous en souvenez ?
Maintenant, oui.
Vous rappelez-vous pourquoi il vous a battu le jour où il s'est tué ?
Oui.
Racontez-moi ce qui s'est passé, Tony.
J'avais peur. Je dormais dans la chambre de devant, là où il y avait le placard tout noir dedans. Je me suis réveillé et j'ai eu peur. Je suis allé dans la chambre de maman comme d'habitude, mais papa était là ce soir-là. D'habitude, il n'était pas là parce qu'il vendait des articles et qu'il était tout le temps sur les routes, mais il était là ce soir-là et il faisait mal à maman.
Que lui faisait-il ?
Il était couché sur elle. Il était tout nu et il lui faisait mal.
Et qu'avez-vous fait, Tony ?
J'ai pleuré, j'ai crié, et je lui ai dit d'arrêter.
Vous avez fait autre chose ?
Non.
Que s'est-il passé ensuite, Tony ?
Papa s'est arrêté. Il avait l'air tout drôle. Il m'a emmené dans la salle de séjour et il m'a frappé avec sa ceinture. Il m'a frappé très fort. Maman lui disait d'arrêter, mais il continuait de me battre. Ça faisait très mal.
Et vous l'avez forcé à s'arrêter ?
Non.
Que s'est-il passé ensuite, Tony ?
Soudain, papa a arrêté de me frapper. Il s'est pris la tête dans les mains et s'est mis à marcher tout drôlement. Il a regardé maman. Elle ne pleurait plus. Elle portait la robe de chambre de papa. Elle la portait tout le temps quand il n'était pas là parce qu'elle était plus chaude que la sienne. Puis papa est allé à la fenêtre et il a sauté.
La fenêtre était ouverte ?
Ouais. Il faisait vraiment froid, la grille était toute neuve. Le propriétaire l'avait installée juste avant Thanksgiving.
Et quand êtes-vous allé vivre chez votre tante, Tony ?
15 jours plus tard.
Et comment avez-vous su que votre mère était fâchée contre vous ?
Elle me l'a dit.
Qu'elle était fâchée ?
Que j'avais fait mal à papa.
En le forçant à sauter ?
Oui.
L'avez-vous forcé à sauter, Tony ?
Non.
Vous en êtes sûr ?
Oui.
Dans ce cas, comment votre mère savait-elle que vous pouviez forcer les gens à faire des choses ?
Je ne sais pas.
Si vous le savez, Tony, réfléchissez. Vous êtes sûr que le jour où vous avez forcé votre tante à vous laisser veiller, c'était la première fois que vous contrôliez quelqu'un ?
Oui.
En êtes-vous sûr, Tony ?
Oui.
Alors pourquoi votre mère pensait-elle que vous en étiez capable, Tony ?
Parce qu'elle le pouvait.
Votre mère pouvait contrôler les gens ?
Oui, depuis toujours. Maman m'obligeait à rester assis sur le pot quand j'étais tout petit. Elle m'obligeait à ne pas pleurer quand j'en avais envie. Elle obligeait papa à faire des choses pour elle quand il était là. C'est pour ça qu'il était parti tout le temps. C'était de sa faute.
C'est elle qui l'a forcé à sauter ce soir-là ?
Non. Elle m'a forcé à le forcer à sauter.
3e interrogatoire d'Anthony Harrod. 20h07, vendredi 24 avril. Tony, qui a tué Aaron Eshkol et sa famille ?
Qui ça ?
L'Israélien.
Quel Israélien ?
Mr. Colben a dû vous en parler.
Colben ? Ah non, c'est Kepler qui me l'a dit. C'est ça, le genou de l'ambassade.
Oui, le genou de l'ambassade. Qui l'a tué ?
Haynes est allé l'interroger avec son équipe.
Richard Haynes?
Oui.
Haynes, l'agent du FBI?
Oui.
Haynes a-t-il tué personnellement la famille Eshcol?
Je crois.
Kepler m'a dit qu'il commandait l'équipe. Qui a autorisé cette opération?
Colben? Barent?
Lequel, Tony?
Aucune importance. Colben était l'homme de paille de Barent. Je peux fermer les yeux, je suis très fatigué.
Oui, Tony. Fermez les yeux. Dormez en attendant notre prochaine conversation. Quatrième interrogatoire d'Anthony Harrod. Vendredi 24 avril 1981, 22h16. Pain total de sodium injecté par intraveineuse. Amobarbital de sodium injecté à 22h04. Données également disponibles sur bande vidéo, sur EEG, sur polygraphe et sur biosonde. Tony?
Oui?
Savez-vous où se trouve l'Oberst?
Qui ça?
William Borden.
Oh, Willy!
Où est-il?
Je ne sais pas.
Avez-vous une idée de l'endroit où il se trouve?
Non.
Avez-vous un moyen de le savoir?
Oui, peut-être. Je ne sais pas.
Pourquoi ne le savez-vous pas? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui sait où il se trouve?
Kepler, peut-être.
Joseph Kepler?
Ouais.
Kepler sait où se trouve Willy Borden.
Kepler dit qu'il a reçu des lettres de Willy.
De quand datent ces lettres?
Je ne sais pas. De ces dernières semaines.
Pensez-vous que Kepler dise la vérité?
Ouais.
D'où viennent ces lettres?
De France, de New York. Kepler ne m'a pas tout dit.
Est-ce Willy qui a entamé cette correspondance?
Je ne comprends pas.
Qui a écrit le premier?
Willy ou Kepler?
Kepler. Comment est-il entré en contact avec Willy?
Il a écrit au type qui garde sa maison en Allemagne.
À Waldheim?
Ouais.
Kepler a envoyé une lettre à Willy au bon soin des gardes forestiers de Waldheim et Willy lui a répondu.
Oui.
Pourquoi Kepler a-t-il écrit à Willy?
Et qu'est-ce que Willy lui a répondu? Kepler essaye de jouer sur les deux tableaux. Il veut s'assurer les bonnes grâces de Willy si jamais Willy entre à l'Island Club.
L'Island Club?
Ouais, ce qu'il en reste. Trask est mort, Colben est mort. À mon avis, Kepler pense que Barent devra négocier si Willy ne relâche pas la pression.
Parlez-moi de l'Island Club, Tony. Il était 2 heures du matin lorsque Saul rejoignit Nathalie à la cuisine. Le psychiatre était pâle et semblait épuisé. Nathalie lui servit une tasse de café et ils s'assirent pour examiner une carte routière.
« C'est tout ce que j'ai pu trouver, » dit Nathalie. « Je l'ai acheté dans un restaurant routier sur l'I-5. »«
Il nous faut un atlas. Ou alors une photo prise par satellite. Peut-être que Jack Cohen pourra nous aider. » Saul suivit du doigt la côte de la Caroline du Sud. « Elle ne figure même pas sur cette carte. »
« Non, »
dit Nathalie.
« Mais si elle se trouve bien à 36 kilomètres de la côte, comme le dit Harrod, cela n'a rien d'étonnant. Je pense qu'elle doit être quelque part par ici, à l'est de Sailor Island et de Murphy Island, beaucoup plus au sud du Cap Romain. »
Saul ôta ses lunettes et se frotta l'arête du nez.
« Ce n'est pas un petit banc de sable qui disparaît à marée haute. À en croire Harrod, Dolman Island mesure presque 10 kilomètres de long et 4 de large. Tu as passé presque toute ta vie à Charleston et tu n'en as jamais entendu parler.
Jamais.
Tu es sûr qu'il dort?
Oh oui, il en a encore pour 6 bonnes heures. Saul prit la carte qu'il avait dessinée en suivant les indications de Harrod et la compara avec celle que Cohen avait incluse dans le dossier Barent.
Tu te sens en forme pour discuter de tout ça?
Ça ira. Bien.
Barent et son groupe, du moins les survivants, se retrouveront sur Dolman Island durant la semaine du 7 juin pour participer au camp d'été, celui qui est ouvert au public.
Le dit public, à en croire Harrod, étant composé du genre de notables dont Jack Cohen nous a parlé. Rien que des hommes, aucune femme. Margaret Thatcher elle-même ne serait pas admise à poser le pied sur l'île. Le personnel est exclusivement masculin. Selon Jack, il y aura plusieurs dizaines de gardes du corps. Les festivités publiques s'achèveront le samedi 13 juin. Le dimanche 14, selon Harrod, l'Oberst se joindra aux quatre membres de l'Island Club, Harrod inclus, pour pratiquer son sport favori pendant 5 jours.
« Son sport favori ?»
s'exclama Nathalie.
« Tu parles d'un sport ?»«
Son sport sanglant favori, » rectifia Saul. « Ça se tient. » Ces hommes ont le même pouvoir que l'Oberst, Melanie Fuller et Nina Drayton. Le goût de la violence les énivre tout autant, mais ce sont des personnages publics. Il leur est beaucoup plus difficile de participer, même de loin, au type d'activité auquel les trois vétérans se livraient jadis à Vienne. Ils se réservent donc pour cette horrible semaine annuelle.
Oui.
Et c'est aussi une façon indolore pour eux, de conforter leur hiérarchie interne. Cette île est un lieu incroyablement privé. Théoriquement, elle n'est même pas placée sous juridiction américaine. Lorsque Barents y séjourne, lui et ses invités demeurent dans cette zone, la pointe sud. C'est là que se trouve son domaine, ainsi que les installations du camp d'été. Les 5 kilomètres de pistes et de marais sont séparés par des zones interdites, des barrières et des champs de mines. C'est là qu'ils jouent leur propre version du vieux jeu de l'Oberst.
Pas étonnant qu'il ait fait des pieds et des mains pour être invité. Combien d'innocents sont sacrifiés durant cette semaine de folie?
D'après Harrod, chaque membre de l'Island Club se voit accorder 5 pions. Cela représente un sujet par jour pendant 5 jours.
Où diable trouve-t-il ces malheureux?
C'est Charles Colben qui fournissait la plupart d'entre eux. Apparemment, ils tirent au sort leur... comment dirais-je... leurs pièces. Ils les tirent au sort chaque matin pour la chasse du jour. La chasse du soir, en fait. À en croire Harrod, les réjouissances ne commencent qu'un peu avant le crépuscule. Ils sont censés tester leur talent en se fiant en partie au hasard. Ils ne souhaitent pas perdre des... pièces qu'ils ont passé un long moment à conditionner.
Où vont-ils trouver leurs victimes cette année?
Nathalie se dirigea vers un placard et en revint avec une bouteille de Jack Daniels. Elle en ajouta une bonne dose à son café. Saul lui sourit.
Devine.
En tant qu'apprenti vampire, ou bisu si tu veux, ce cher Mr. Harrod a reçu pour mission de fournir 15 des pions. Il doit s'agir d'hommes et de femmes en bonne condition physique qui ne manqueront à personne.
« C'est ridicule, » dit Nathalie. « Leur disparition sera sûrement remarquée. »«
Pas vraiment, » soupira Saul. « Il y a des dizaines de milliers d'adolescents fugueurs dans ce pays. La plupart ne reviennent jamais chez eux. Dans les établissements psychiatriques des grandes villes, on trouve des ailes entières remplies de personnes sans identité et sans famille. La police est submergée de demandes de recherche de maris ou d'épouses ayant déserté le domicile conjugal. Donc, il s'empare de 2 douzaines de personnes, les expédie dans cette foutue île et les force à s'entretuer.
La voix de Nathalie était lourde de fatigue.
Oui. Tu penses que Harrod a dit la vérité? Il m'a peut-être transmis des informations erronées, mais les drogues l'empêchent de formuler des mensonges.
Tu vas le laisser vivre, n'est-ce pas, Saul?
Oui. Notre meilleure chance de retrouver l'Oberst est de laisser ce groupe organiser leur chasse sur l'île. Éliminer Harrod ou le garder prisonnier trop longtemps entraînerait probablement l'échec de notre plan. Tu penses qu'il n'échouera pas quand cette ordure ira tout raconter à Barents et aux autres?
À mon avis, il est probable qu'il n'en fera rien.
Bon Dieu, Saul, comment peux-tu en être sûr?
Je suis sûr d'une chose. Harrod ne sait plus où il en est.
Tantôt il est convaincu que nous sommes des agents de l'Oberst. Tantôt il est persuadé que nous sommes envoyés par Kepler ou par Barents. qu'il est incapable de croire que nous sommes des acteurs indépendants dans ce mélodrame.
Un mélodrame, en effet. Papa me laissait veiller tard pour regarder ce genre de merde au cinéma de minuit. Les chasses du comte Zaroff.
C'est de la connerie, Saul.
Saul Lasky tapa du poing sur la table avec tant de force que l'on aurait cru qu'un coup de feu venait d'éclater dans la cuisine. La tasse de Nathalie se renversa et son café se répandit sur la table.
« Ne viens pas me dire que c'est de la connerie !»
hurla Saul. C'était la première fois en 5 mois que Nathalie l'entendait hausser le ton.
« Ne viens pas me dire que tout ça n'est qu'un mauvais mélodrame. Va le dire à ton père. Va le dire à Rob Gentry. Va le dire à mon neveu Aaron, à sa femme et à leurs enfants. Va le leur dire à tous, aux milliers de personnes que l'Oberst a envoyées dans les fours crématoires. Va le dire à mon père et à mon frère Joseph. »
Saul se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise. Il se pencha au-dessus de la table, et Nathalie remarqua les muscles qui saillaient sous la peau hâlée de ses avant-bras, l'horrible cicatrice de son bras gauche, son tatouage à moitié effacé. Sa voix était plus basse lorsqu'il reprit la parole, mais elle ne s'était pas apaisée. Il se contentait de contrôler sa colère.
« Nathalie, l'histoire de ce siècle est un lamentable mélodrame écrit par des êtres lamentables aux dépens des vies et des âmes de leurs prochains. Nous ne pouvons rien y changer. Même si nous réussissons à éliminer ces aberrations, le projecteur se braquera sur un autre des charognards qui anime cette farce violente. De tels actes sont accomplis tous les jours par des gens qui n'ont pas un iota de ce pouvoir psychique. Des gens qui pratiquent la violence dans le cadre de l'exercice du pouvoir que leur confère leur caste, leur position sociale, leurs armes ou leurs électeurs. Mais bon Dieu, ces salopards se sont attaqués à notre famille, à nos amis. Et nous les empêcherons de nuire.
Saul s'interrompit, posa les mains sur la table et pencha la tête. Quelques gouttes de sueur tombèrent sur la nappe. Nathalie lui caressa la main.
« Je sais, Saul, » dit-elle doucement. « Excuse-moi. Nous sommes très fatigués. Nous avons besoin de sommeil. »
Il hocha la tête, lui tapota la main et se frotta les joues.
« Va dormir quelques heures.
Je vais installer un lit pliant dans la salle d'observation. » Les sondes sont programmées pour déclencher un signal d'alarme dès que Harrod se réveillera. Avec un peu de chance, nous aurons droit à 7 heures de sommeil.
Nathalie éteignit la lumière et l'accompagna jusqu'au pied de l'escalier. Elle posa un pied sur la première marche, puis se retourna et dit
« Ça signifie que nous devons passer à la phase suivante comme prévu, n'est-ce pas ?
Aller à Charleston ?»
Saul hocha la tête avec lassitude.
« Je crois bien que oui. Je ne vois pas d'autre moyen. Je suis navré. »«
Ce n'est pas grave, »
dit Nathalie, qui sentait néanmoins la peur lui nouer les entrailles à l'idée de ce qui les attendait.
« Je savais qu'il faudrait en passer par là. »
Saul leva les yeux vers elle.
« Ce n'est pas forcément nécessaire. »«
Si. »
Elle commença à gravir l'escalier, murmurant la phrase suivante pour elle-même.
« Si, c'est nécessaire. »